Europe 1, il est 7h.
On a des personnes qui reviennent d'Italie, qui se présentent avec des symptômes respiratoires. On en a à peu près une quarantaine par jour.
Il est là, le coronavirus arrive en France. Les médecins, les urgentistes et les chercheurs sont sur le pied de guerre. On vous emmène à Marseille dans les coulisses des dépistages du virus.
Doit-on s'inquiéter? Quels sont les risques finalement pour chacun d'entre nous? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste santé, Mélanie Gomez.
Le roi de l'évasion n'échappera pas à son procès en appel. Aujourd'hui, Redouane Faïd comparé avec 3 autres complices. Procès sous très haute surveillance, hors de question que l'accusé s'échappe à nouveau.
Au regard des antécédents de cet accusé, c'est effectivement une possibilité qui est nécessairement prise en compte par l'institution.
Le grand flou des tarifs SNCF, le yo-yo incompréhensible des prix pour un même trajet, c'est ce que dénoncent 60 millions de consommateurs.
Et puis en Dordogne, soyez vigilants, vous pourriez croiser une star américaine en plein tournage de film.
Matt Damon, quoi, un grand acteur américain. Je le vois passer, hein, on le voit passer en voiture et bon, ça fait plaisir.
Ça a de quoi troubler les riverains. Matt Damon, mais aussi Ben Affleck sont en France pour la nouvelle superproduction de Ridley Scott.
7h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Simon Rubin.
La France fait face ce matin à une épidémie. 18 cas de coronavirus sur le territoire, 2 morts. À Amiens, un homme dans un état grave, 15 millions de masques débloqués par le gouvernement. Alors on va faire le point avec vous, pour vous, sur ce qu'on sait du virus, des traitements, des perspectives, des réflexes à adopter.
En partant d'abord à Marseille, à l'Institut Méditerranéen d'Infectiologie, on vous emmène dans les coulisses des dépistages qui s'organisent dans ce pôle d'excellence de 25 000 mètres carrés dédié à l'étude et au traitement des épidémies. Le reportage de Stéphane Frangy dans cet avant-poste de la lutte contre le nouveau coronavirus.
De plus en plus sollicité, le microbiologiste Pierre-Édouard Fournier fait face à un afflux de personnes venues spontanément se faire dépister.
En ce moment, on a des personnes qui reviennent d'Italie en particulier, hein, qui sont allées soit au Carnaval de Venise, soit à Milan et qui se présentent avec des symptômes respiratoires. On en a à peu près une quarantaine par jour.
Donc voici les prélèvements tels qu'ils arrivent au laboratoire. Et c'est donc à partir de ces prélèvements-là, qui sont, vous le voyez, dans des tubes fermés de façon stérile, qui permettront ensuite les tests de détection.
Ces analyses durent 2 heures. Pendant ce temps, les personnes dépistées sont confinées. Et si jamais un cas positif devait être détecté, là encore, toutes les solutions sont à portée de main. Pierre-Édouard Fournier.
Nous sommes autonomes pour la prise en charge des patients de A à Z. Il sera acheminé au 3e étage par un ascenseur dédié. Il ne sera en contact ni avec le personnel, ni avec d'autres patients. Et il sera accueilli dans une chambre où il sera gardé en observation et traité jusqu'à ce qu'il soit guéri.
Et ce traitement potentiel est un antipaludéen pour lequel l'Institut Méditerranéen d'Infectiologie est en train de constituer des réserves. Marseille, Stéphane Frangy, Europe.
Des dépistages, hein, des nouveaux cas qui émergent, 2 morts pour saisir tous les enjeux. On va maintenant se poser quelques instants avec vous, Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. Mélanie, on l'entend dans le reportage à Marseille, c'est un peu la course à l'armement. Tout le monde cherche un traitement pour ce qui n'est pas encore une épidémie, mais qui pourrait le devenir. On est d'accord, en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de remède miracle.
Non, aucun traitement spécifique contre le coronavirus chez l'être humain n'a été validé de façon sérieuse à ce jour. Pour revenir sur la chloroquine, cet antipaludéen, le ministère de la Santé l'a confirmé hier soir. À ce stade, ce médicament n'a pas confirmé son efficacité sur des patients. Cette piste existe, mais n'a fait preuve de son intérêt que dans des tubes à essai.
À 6h40, Jean-Paul Ortiz, président du premier syndicat de médecins libéraux, était notre invité sur Europe 1. Il est quand même très inquiet, notamment pour les médecins qui sont en première ligne. C'est préoccupant.
Oui, en tout cas, ce qui s'est passé dans l'Oise est préoccupant. 2 patients ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. L'un est même décédé sans que l'on sache à ce stade comment ils ont été contaminés. Or, jusque-là, pour tous les cas déclarés en France, on a toujours réussi à remonter la chaîne de contamination jusqu'au patient zéro. Là, on est encore dans une zone d'ombre. Mais les autorités mènent l'enquête très activement.
À titre individuel, Mélanie, vous, moi, nos auditeurs, est-ce qu'on doit s'inquiéter?
Alors non, Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a confirmé hier soir. En France, à ce jour, il n'y a pas d'épidémie. 18 cas, 2 décès. Pour vous donner une idée, la grippe, c'est chaque hiver plusieurs centaines de milliers de cas et environ 10 000 décès. Il faut préciser aussi qu'être infecté par le coronavirus, ce n'est pas une condamnation à mort. Loin de là, sur 100 personnes touchées, 80 vont guérir spontanément, 15 auront besoin de soins et chez 5, ce sera plus sérieux, 2 ou 3 vont décéder. Donc il faut relativiser sans fermer les yeux sur le risque de mortalité. Et à titre individuel, le conseil principal pour éviter d'être potentiellement contaminé, il est simple et efficace. Lavez-vous les mains. On conseille désormais de le faire toutes les heures. Rappelons qu'en moyenne, nous touchons machinalement notre visage 3000 fois dans une journée.
Mélanie Gomez, spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1 et le coronavirus. On en reparle évidemment dans le journal de 8 heures. On sera notamment avec Odile Launay, infectiologue et responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin.
Et Mélanie Gomez en parlait dans l'Oise. Situation très confuse après le décès de cet homme de 60 ans. Les enquêteurs doivent maintenant répondre à une question urgente. Comment cet homme a-t-il été infecté par le coronavirus? Le récit d'Hélène Terzian.
Il n'avait, semble-t-il, pas séjourné dans une zone à risque, ne rentrait apparemment ni de Chine ni d'Italie. Voilà pourquoi, à son admission à l'hôpital de Creil, cet enseignant de 60 ans suit un parcours médical ordinaire pour un homme en très mauvais état de santé. Service de réanimation, des tests passés durant plusieurs jours, jusqu'à ce que le personnel médical envisage le très improbable, le coronavirus. L'homme est transféré à la Pitié-Salpêtrière, test positif, avant son décès d'une embolie pulmonaire dans la nuit de mardi à mercredi. Et d'après plusieurs sources au sein de l'hôpital de Creil, rien n'a été sous-estimé. Problème, plusieurs soignants ont été en contact avec le porteur du virus. Ils sont en train d'être identifiés. Certains sont déjà placés en quarantaine à leur domicile. Autre souci, le service de réanimation est fermé depuis hier et ce pour une durée de 14 jours.
Et conséquence sur le plan économique du coronavirus pour réduire l'effet de la maladie sur ses comptes, la compagnie Air France va prendre de nouvelles mesures d'économie allant de la réduction des dépenses au gel de certaines embauches. C'est ce que dévoile un courrier interne de l'entreprise. On y reviendra dans le journal de 8 heures.
Et puis, économie toujours, il y a un secteur qui fait plus que se poser des questions, c'est l'industrie pharmaceutique. Des malades qui n'ont rien à voir avec le coronavirus vont-ils manquer de médicaments? 60% des principes actifs, la matière première du médicament, provient d'Asie, de Chine et d'Inde, notamment. À 7h40, le vice-président du géant français Sanofi sera notre invité dans ce studio sur Europe 1.
Il est 7h07.
Il ne devrait pas échapper à son procès en appel qui commence aujourd'hui. Redouane Faïd, le roi de l'évasion, comparé à Saint-Omer.
Vous vous souvenez peut-être de sa fuite de prison à l'explosif en 2013 ou plus récemment de son évasion en hélicoptère en 2018. Alors c'est un personnage, une figure du milieu criminel qui débarque pour son procès dans la campagne du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Lionel Gougelot.
Un palais de justice sous haute surveillance policière, le procès de Redouane Faïd intrigue et inquiète un peu les habitants et les commerçants du quartier.
Moi j'ai des clients qui m'ont dit « Oh c'est un personnage, ça craint ». Il y en a quand même qui s'inquiètent un peu. Après je vous avoue, parfois je prends mon petit garçon pour venir, je vais éviter de le prendre. On ne sait jamais.
Renfort de police, périmètre de sécurité, interdiction de survol, tapis à rayon X à l'entrée du tribunal, un dispositif pour contrer une tentative d'évasion, menace forcément présente à l'esprit du procureur Patrick Leleu.
Au regard des antécédents de cet accusé, qui s'est déjà évadé dans notre région et ailleurs, et de manière assez spectaculaire. Donc c'est effectivement une possibilité qui est nécessairement prise en compte par l'institution.
Guillaume Terrard, sous-préfet de Saint-Omer.
C'est un dispositif qui a été réfléchi depuis un an et qui est adapté à la menace. Donc les moyens ne sont pas non plus extravagants.
Il en a quand même coûté 250 000 euros. Des mesures complètement disproportionnées tonnent les avocats de Redouane Faïd. Ce dernier est en grève de la faim depuis une semaine. Dans un état de grande faiblesse, une expertise médicale a été ordonnée pour savoir s'il est en état de comparaître. Réponse en début d'audience. À Saint-Omer, Lionel Gougelot, Europe 1.
Elle est l'un des derniers porte-drapeaux du PS. L'ancienne ministre Catherine Trottmann pourrait être l'élément décisif de l'élection pour la mairie de Strasbourg. Elle est troisième derrière la liste LREM-UDI-MODEM qui est en tête et le tandem PC-Europe Écologique est deuxième. C'est l'un des grands enseignements de notre sondage BVA Orange pour Europe 1.
Et avec nous pour en parler ce matin, Adélaïde Zulfi-Karpassic, directrice de BVA Opinion. Bonjour.
Bonjour.
Le Parti Socialiste troisième, comment vous l'expliquez ?
Bah, c'est pas tellement une surprise. Je vous rappelle que le maire sortant qui ne se représente pas, Roland Ries, est lui-même issu du Parti Socialiste. C'est une ville qui, depuis des années, oscille régulièrement entre des maires LR, des maires PS. Donc, on a une ancienne maire qui, je le rappelle, en fait, a repris la liste Parti Socialiste alors que le candidat désigné par le parti, Mathieu Kahn, a dû se désister. On pensait le PS hors course, effectivement, avec un match qui se dessinait entre la candidate Europe Écologie Les Verts et le candidat de la République En Marche. Or, Catherine Trottmann, qui a une meilleure notoriété que son prédécesseur, apparaît en mesure de capter une partie de ses voix. Alors, elle ne sera que troisième, pas en mesure d'être vraiment la candidate qui va remporter l'élection. En revanche, on voit qu'au vu des scores serrés entre la liste LREM, 27%, et la liste Europe Écologie Les Verts, 25%, Catherine Trottmann, qui peut se maintenir au troisième tour, va être un petit peu décisive dans les alliances de second tour.
Et élection d'autant plus ouverte que deux autres listes pourraient se maintenir, les Républicains et le Rassemblement National, qui sont pas si mal placés en tout cas.
Exactement, la liste LR serait à autour de 15%, la liste du Rassemblement National pourrait faire comme la précédente élection en 2014, 10%, et donc on pourrait avoir 5 listes qui se maintiendraient. Il est plus vraisemblable qu'on se dirige vers une quadrangulaire avec une alliance de Catherine Trautmann avec l'un ou l'autre des principaux candidats, et on voit au vu de notre sondage que le rôle de Catherine Trautmann sera décisif, car en fonction de à qui elle s'allie, eh bien ce sera déterminant pour la victoire au second tour.
Merci Adélaïde Zulfi-Karpassic, directrice de BVA Opinion, notre partenaire pour ce sondage exclusif BVA Orange et Europe 1, à retrouver en détail évidemment sur europe1.fr.
Nous venons de l'apprendre, un incendie cette nuit à Strasbourg a fait selon les pompiers 5 victimes, hein, Julien Pierce.
5 victimes et 7 personnes blessées, bilan très lourd après cet incendie qui s'est déclaré aux environs d'une heure du matin dans le quartier de la gare à Strasbourg, rue de Bar très exactement. Les pompiers ont été appelés dans la nuit pour un dégagement de fumée dans la cage d'escalier d'un immeuble de 7 étages. Les blessés ont été pris en charge par les équipes du SDIS et du SAMU. Les pompiers ont dû faire face à de nombreux sauvetages et mises en sécurité en raison de l'épaisse fumée qui avait envahi les lieux communs. On ignore pour l'heure les causes de cet incendie. Les personnes non blessées, une vingtaine environ, ont été accueillies dans un gymnase de la municipalité. Incendie dont je vous rappelle le bilan provisoire donné par les pompiers. 5 morts et 7 blessés.
Julien Pierce sur cet incendie, la nouvelle qui vient de nous parvenir.
Vous restez avec nous dans un instant, on va parler de l'opacité des tarifs SNCF. Oui, dans un même wagon, plusieurs tarifs différents et on les explique rarement. On va en discuter avec 60 millions de consommateurs et vous allez entendre que ce n'est pas le seul reproche que les usagers font à la SNCF. A tout de suite.
Europe 1, il est 7h12, la suite du journal. Mathieu Béliard, Simon Rubin.
Vous vous êtes déjà sûrement fait la réflexion. Difficile de s'y retrouver dans les tarifs pratiqués par la SNCF. Parfois, on prend ses billets avec des mois d'avance, sans faire d'économie manifeste. Un flou sur les tarifs que dénoncent 60 millions de consommateurs.
Bonjour Benjamin Dourier.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs. SNCF, tout déraille. Et c'est le titre du magazine qui sort ce matin. Et le premier grand reproche des usagers, c'est le flou de la politique tarifaire.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de mal à s'y retrouver, donc pour essayer de donner des armes aux consommateurs, aux voyageurs, on a fait une étude, on a étudié les tarifs de près de 3000 trains, et ce qu'on constate, c'est le grand écart entre les tarifs sur certaines lignes. On a constaté que les prix pouvaient varier de 1 à 11. Ça veut dire qu'on a des prix d'appel à 10 euros, mais le prix du billet peut monter jusqu'à 110-115 euros. Donc c'est des écarts qu'on voit entre Paris et Bordeaux, par exemple, entre Paris et Marseille. Donc effectivement, il y a des grands écarts tarifaires qui expliquent que les consommateurs sont un petit peu perdus.
Quels autres reproches, là on l'entend sur les tarifs, quels autres reproches formulent les usagers? On imagine les retards des guichets fermés.
Oui, ça fait partie aussi des reproches récurrents. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les tarifs en eux-mêmes, et notamment quand on parle des grands départs en vacances, c'est vrai que ça fait partie des vagues de plaintes qu'on a de façon récurrente à 60 millions de consommateurs pour les départs en vacances d'été, en vacances de Noël, sur le prix des billets. Et notre étude permet de montrer que sur ces demandes, sur ces dates très demandées, il n'y a parfois aucune économie à espérer parce que même à l'ouverture des réservations, on est déjà au tarif maximum.
Et il y a un moyen d'obtenir de meilleurs tarifs ou c'est la chance, c'est le loto ?
Alors, sur les grands départs, notre étude montre qu'hélas, il n'y a rien à espérer. En revanche, dans la plupart des autres dates de voyage, on a essayé d'estimer les économies qu'on pouvait faire en réservant à l'avance et on arrive à un chiffre de 20% d'économie si on réserve 2 mois à l'avance par rapport au prix qui sera pratiqué 15 jours à l'avance. Donc voilà, si au lieu d'y prendre 15 jours à l'avance, c'est 2 mois, ça fait en moyenne 20% d'économie d'après notre estimation.
On a en tout cas bien compris à quel point ça pouvait être complexe que cette tarification SNCF. Benjamin Dourier, merci beaucoup, rédacteur en chef adjoint à 60 millions de consommateurs, le magazine de l'Institut National de la Consommation.
C'est une réussite qui apparaît presque comme un miracle, celle de PSA, le constructeur automobile français qui enregistre un bénéfice en forte hausse en 2019.
C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Des bénéfices records dans l'automobile, un secteur en pleine révolution, c'est possible et c'est donc l'histoire de PSA.
Oui, en 2013, souvenez-vous, PSA était un constructeur malade, il fermait l'usine d'Aulnay était au bord de la faillite, l'État et un groupe chinois, Dongfeng, volaient à son secours. Eh bien aujourd'hui, c'est un des constructeurs automobiles les plus rentables du monde, avec une marge digne des fabricants de voitures de luxe allemands et un bénéfice net de 3,2 milliards d'euros. PSA a même profité de sa santé retrouvée pour racheter Opel et Vauxhall, des marques allemandes et britanniques, ce qui lui donne une surface suffisante maintenant pour fusionner avec Fiat Chrysler et former l'un des premiers groupes automobiles du monde.
Comment un tel retournement de situation a-t-il été possible aussi vite ?
Alors, le patron de PSA, Carlos Tavares, qui a pris les commandes en 2014, a d'abord réduit les coûts. C'est une leçon pour ceux qui s'opposent à toute forme de restructuration. Ça explique la moitié du redressement. Avant, PSA devait vendre 2,6 millions de voitures pour simplement atteindre son point mort. Aujourd'hui, il suffit d'en vendre 1,8 million pour gagner de l'argent. Or, il en vend le double. L'autre explication du redressement, c'est la montée en gamme. Les clients sont prêts à payer plus pour une Peugeot ou une Citroën parce que les modèles sont plus attrayants, plus haut de gamme, génèrent plus de profits. Le grand défi qui attend Carlos Tavares va être d'appliquer ses recettes chez Fiat Chrysler. La fusion doit intervenir d'ici un an. Énorme chantier.
Merci Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h. On va aller voir des stars pour terminer ce journal. Matt Damon, Ben Affleck, qui sont en tournage en Dordogne.
Alors si vous voulez les voir, il vous faudra quand même de très bonnes jumelles parce que le tournage du nouveau film de Ridley Scott est particulièrement protégé. Mais imaginez, plus de 400 techniciens, des centaines de figurants qui sont mobilisés près de Sarlat. De quoi réjouir riverains et commerçants. Stéphane Place.
Bonjour. Bonjour. Donc c'est ici le tournage alors?
Oui.
On peut pas passer?
Ah non, désolé.
Pas question d'approcher le château fort du XIIe siècle de Bénac au sommet de cette falaise du Périgord noir. C'est là que se déroule dans le plus grand secret le tournage. Déploiement technique, balai de voitures aux vitres fumées. Dominique observe un brin agacé.
C'est un vrai grand barnum. C'est assez contraignant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées. On peut pas aller dans Sarlat quand il tourne.
Beaucoup plus enthousiaste, Stéphanie qui tient ici un hôtel-restaurant et le serveur de l'établissement, Cyril.
C'est une aubaine pour le mois de février. Des nuitées, du restaurant.
Matt Damon, quoi, un grand acteur américain. Je le vois passer, hein, on le voit passer en voiture et bon, ça fait plaisir.
Matt Damon, Ben Affleck, mais aussi des centaines de techniciens. Thierry Borde est le directeur adjoint du bureau d'accueil des tournages de la Dordogne.
400 à 500 techniciens. Mon travail, ça a été notamment de privilégier l'embauche locale, mais aussi de rayonner sur l'ensemble de la région Nouvelle-Aquitaine. On accueille beaucoup de figurants, périgourdins, mais pas seulement. Par exemple, trouver des choristes qui chantaient des chansons du Moyen-Âge et qui acceptaient d'avoir une tonsure pour jouer un moine dans un film.
Un coup de projecteur exceptionnel, la Dordogne espère bien bénéficier de retombées touristiques importantes. Bénac, Stéphane Place, Europe 1.
Et film produit par les studios Disney qui s'intitule The Last Duel, le dernier duel sorti prévu en début d'année prochaine.
Ils ont eu raison les studios Disney, quelle belle région pour le coup que la Dordogne en France. Ils ont de la chance, Matt Damon, Ben Affleck et les habitants de Dordogne finalement de croiser ces stars américaines. Simon Rubin, merci beaucoup.